Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Il y a eu Serge Blanco, Philippe Sella, Jean-Luc Sadourny, Jean-Pierre Rive ou plus récemment Fabien Galthié ou Thierry Dussautoir. Tous ces grands noms ont fait l'histoire de l'équipe de France. Lequel est le plus grand de l'histoire de ce sport? Difficile de comparer les époques, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur français de rugby de l'histoire. Pour m'accompagner, Arnaud Beurdelet, journaliste pour Midi Olympique, Laurent Vergne, journaliste à Eurosport, et deux anciens joueurs et consultants sur Eurosport, Raphaël Poulain et Jean-Baptiste Lafont. Salut messieurs.
Salut.
Salut.
Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, on va commencer avec un petit tour de table. Vous allez me dire en un mot qui vous avez choisi. Laurent, pour commencer.
Philippe Sella.
Raphaël.
J'avoue que j'ai hésité parce que c'est des joueurs qui marquent une adolescence. Donc je dirais Jean-Luc Sadourny.
Arnaud.
J'ai choisi Serge Blanco, le plus grand, le Michel Platini du rugby, le Yannick Noah du rugby.
Et Jean-Baptiste.
Le plus grand pour moi, c'est Flancard. Ou Doga ou Elie Sester, non?
Oui, par la taille, t'as raison Jean-Baptiste.
Non, Flancard fait 2m08, il est grand, non, je déconne, mais peut-être que le plus grand, pour moi, c'est le plus petit, c'est Jean Gachassin qui a joué à tous les postes, du 9 au 15 en équipe de France, voilà, mais c'était une manière de répondre et de vous dire que je suis très content de participer à votre petite réunion, moi qui suis rarement invité, qui la joue en solo souvent. Donc, merci Arnaud, merci à Raphaël de m'inviter. Voilà, j'espère que ça sera renouvelé.
C'est vrai qu'on se croise rarement quand même. On est vu en plus avec le Covid et toutes ces conneries là. On se croise rarement, mais ravi de te voir aussi quand même.
Donc, pour revenir au plus grand, franchement, je suis là que pour arbitrer vos duels parce qu'en fait, il y a 15 grands, puisqu'il y a 15 postes. Donc, on ne peut pas comparer. Par exemple, Serge Blanco à Jean-Pierre Rive, enfin, c'est pas le même poste, c'est pas le même gabarit, c'est voilà. Enfin,
on n'est pas là pour comparer, Jean-Bart, on est là pour forcément dans un collectif, et on sait que le rugby est un sport éminemment collectif, on sait qu'un joueur n'est rien sans les 14 autres, il y a toujours des joueurs quand même qui sortent du lot, qui marquent, ou par leur talent, ou par leur histoire. Moi, j'ai choisi Serge Blanco parce qu'effectivement, il a quand même une histoire particulière. C'est l'enfant de Caracas, du Venezuela, qui grandit à Biarritz, élevé par sa maman toute seule, et qui se fait un nom incroyable. Tout à l'heure, je disais que c'était le Yannick Noah du rugby, que c'était l'équivalent, grosso modo, de Yannick Noah, de Michel Platini. Il a été surnommé le Pelé du rugby parce qu'il savait tout faire avec un ballon. C'est un joueur qui a eu 93 sélections avec l'équipe de France, qui a encore le record du nombre d'essais marqués avec 38 essais. C'est un joueur qui a marqué sa génération par sa classe, par sa générosité sur le terrain. Les équipes qui l'affrontaient savaient qu'il fallait le dessouder parce que c'était un danger permanent. Je ne te rappelle pas, Jean-Bas, ce qui s'est passé en quart de finale de Coupe du Monde 91 face aux Anglais. Peut-être que tu peux nous en parler, mais voilà, ce jour-là, ils avaient détruit Serge Blanco parce que le danger ne pouvait venir quasiment que par lui.
Moi, ce que je pense de Serge Blanco, c'est que quand je regarde autour de moi, quand je parle de Serge autour de moi, quand on me parle de Serge Blanco, je me dis, en toute humilité, mais sans fausse modestie, que j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant 6 ans, 6 tournois, d'être à côté de lui, à gauche de lui, à sa droite, derrière, d'être dans son sillage et de profiter de ses fulgurants, de ses jambes, de ses aspirations. Voilà. En dehors de ça, c'était un mec adorable, même quand il était capitaine et quand il était joueur. Et c'était un joueur, effectivement, moi, que j'avais admiré alors que je ne jouais pas en équipe de France. Et donc, que j'ai encore plus admiré et aimé lorsque je joue avec lui. Donc, je peux dire que du bien de Serge Blanco et pour résumer, dire que j'étais fier de jouer avec lui.
Je sais pas si les gens se souviennent, mais il faut rappeler que sa première sélection, il a joué en Afrique du Sud en 1980, qu'à l'époque, on l'emmène plus ou moins pour avoir une caution politique. Et je rappelle, en 1980, en Afrique du Sud, en plein milieu de l'apartheid, Serge Blanco est un métis, on l'envoie là-bas. Sa première sélection, il la dispute sur le sol sud-africain. Il se fait cracher dessus, il se fait insulter, on lui jette des oranges. Il raconte d'ailleurs dans sa biographie parue l'an dernier que par provocation ou pour répondre peut-être un peu plus intelligemment, il s'était baissé pour ramasser une orange et la manger. Sans répondre finalement à la provocation des Sud-Africains. C'est toute l'histoire de Serge Blanco qui aujourd'hui en fait une légende. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ses essais ou ses coups de pied. J'ai souvenir de, voilà, je me souviens de cette pénalité finale championnat de France 92, Biarritz contre Toulon de mémoire, où il met une pénalité de 60 mètres quand même au Parc des Princes. Et alors le seul petit bémol, effectivement…
Il n'a pas été champion de France.
Il n'a pas été champion de France, Laurent. Il n'a pas été champion de France. Et quand la question s'est posée, quand Laurent a parlé de Philippe Sella, c'est vrai qu'aujourd'hui, Philippe Sella, avec ses 111 sélections, est au-dessus de Serge Blanco, qui n'en compte que 93.
Laurent, c'est aussi, pour rester un petit peu sur Serge Blanco, c'est aussi des essais marquants. On parle souvent de cet essai contre l'Australie en demi-finale de la Coupe du Monde 87, qui permet au 15 de France de rallier la finale. Avec ces images mythiques, ça aussi, c'est l'imaginaire qui joue aussi avec Serge Blanco.
C'est beaucoup d'essais mythiques, Blanco, beaucoup d'inspiration surtout, parce qu'il y a eu des essais qu'il a marqués, mais qu'il a aussi enclenchés. Je me souviens du premier match de la Coupe du Monde 87 contre l'Écosse, où l'équipe de France est en difficulté, et Blanco a cette inspiration géniale où il joue une pénalité à la main, où il surprend tout le monde, y compris la réalisation, on ne voit pas l'essai, et il va aplatir entre les poteaux. Évidemment, je pense que son essai le plus célèbre, c'est celui contre l'Australie à Sydney en demi-finale de la Coupe du Monde 87. C'est même probablement un des essais les plus célèbres, non seulement de l'histoire du 15 de France, mais de l'histoire du rugby. Donc, je pense que de toute façon, avec des gens comme Philippe Sella, comme Serge Blanco, comme Jean-Pierre Rive et d'autres, on ne peut pas se tromper. Jean Baladi, c'est difficile de déterminer qui est le plus grand. Et je pense que ce n'est même pas le but aujourd'hui. Le but, pour moi, c'est de rendre hommage à des gens qui, chacun à leur manière, ont vraiment marqué l'histoire du rugby français, l'histoire du rugby tout court. Moi, Sella, je l'ai choisi parce que, pour moi, c'était un joueur extraordinairement complet, peut-être le plus complet de cette génération. C'était un créateur, peut-être pas autant que Blanco, il y a peut-être moins d'images, encore que, on va en parler, mais c'était aussi un défenseur incroyable. Je veux dire, c'était un hachoir en défense, Philippe Sella, quand vous le preniez, ça faisait quand même très mal. Et puis, pour moi, c'est un joueur qui a fait le lien entre le rugby amateur encore des années 80 et le début du professionnalisme. Il était là sur les trois premières Coupes du Monde, de 87 à 95. 95, c'est sans doute la première Coupe du Monde de l'ère professionnelle. Elle marque vraiment une rupture. Et c'est là, il était encore là. Il était encore à un très haut niveau, encore titulaire en équipe de France. Donc voilà, pour moi, il est vraiment le chaînon entre ces deux époques. Moi, j'ai grandi avec l'équipe de France des années 80. Et donc, je ne me voyais pas choisir quelqu'un d'autre qu'un membre de cette équipe. Puis non,
c'est pas parce que je veux dire ce qui est agréable avec ces deux joueurs que vous citiez, c'est que j'ai joué avec les deux pendant 10 ans, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Philippe. C'est là, effectivement, comme disait Jacques Fourreau, était un monstre de ce jeu. Déjà, quand tu as 111 sélections, et ce qui est fabuleux, c'est qu'il avait un jeu physique, comme tu dis, qui découpait, qui s'engageait, mais qui ne s'est jamais blessé, ou très rarement blessé. Donc, peut-être qu'il se préparait très bien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il était déjà, lui,
non, mais
pas plus pro dans l'âme ou...
Non, mais c'était quelqu'un sûrement qui devait s'entraîner, souvent en cachette, j'imagine, qui devait bien préparer ses matchs. Et puis, dans une carrière internationale, il faut un peu de chance, hein, parce que personne n'est à l'abri d'une malléole, d'un croisé, etc., etc. Mais puis, vous venez de citer, en fait, deux joueurs effectivement qui vous ont marqué, qui m'ont marqué à moi aussi puisque j'étais entre les deux. Et effectivement, c'est pas un si mauvais choix, quoi. Mais les mettre les deux sur le podium, oui, parce que mais Philippe Sella, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié Arnaud son interview dans le Midi Olympique avant le match contre Lyon, parce qu'il s'est livré. On a compris qu'il avait repris un peu l'équipe à son compte là, pendant une semaine, même s'il n'y a pas d'entraîneur, mais pendant une semaine, ça a été lui. Et on a senti franchement qu'il était attaché à son club d'Agen, quoi. C'est assez exceptionnel. Mais effectivement, c'était un joueur qui avait tout, Laurent, qui avait tout, puisque alors il butait pas. Voilà. Ouais. Il butait pas. Mais il défendait, il attaquait, il avait surtout des jambes et du punch et du jus et une accélération au milieu de terrain. Et surtout une rage hallucinante sur le terrain, quoi. C'est voilà, une espèce de connerie intelligente, comme disait Jacques Fourou, une connerie bien canalisée sur le plaquage et en attaque. En général, soit tu es attaquant, soit tu es défenseur. Lui, effectivement, tu viens de souligner en résumant qu'il était les deux, ce qui en a fait un des plus grands joueurs de l'équipe de France.
Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il a, peut-être pas révolutionné, mais qu'il a posé des nouveaux canons pour son poste de trois quarts centre?
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un débat sur les centres physico-techniques, physico-physicaux. Non, mais oui, je pense que lui, c'était effectivement c'était un Bertrand. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Roland Bertrand. Un Bertrand plus, bien que Bertrand était un énorme puncher au milieu du terrain. Mais il était peut-être un peu plus rugby, mais Philippe Sella est un descendant de Roland Bertrand. Après, au niveau du poste de trois quarts centre, qui est un poste de frontal maintenant, ouais. Il y a une concurrence énorme des Fidjiens. Il y a eu Franck Menel également avec lui, qui est effectivement, à l'époque, il y a eu des grands débats dans la presse, dans les bistrots, au bar, entre il y avait les oppositions entre Charvet, Chavet, Codorniou, Andrieux qui jouait avec Sella à la place de Denis Charvet. Il n'y a plus ce genre de débat, de polémique actuellement. Mais effectivement, il était précurseur, si tu veux. Mais je pense que Franck Menel était plus précurseur, ou Marc Andrieux. Sella, il était tout. Il était tout. C'est, voilà. Tu sais qu'avec lui, effectivement, on dit souvent, on pouvait partir à la guerre. Un jour, Jacques Fourry nous a pris, enfin, il nous a fait marrer à la fin d'un repas. Il m'a regardé avec Denis, je ne sais pas si c'est Denis ou moi, parce que nous, on était plutôt les flûtes traversières, toi, les artistes. Et il nous a dit, mais si je vous mets un des deux dans une salle enfermée avec Philippe Sella, que vous n'avez pas bouffé depuis une semaine et que je mets au milieu un morceau de beefsteak, qui est-ce qui va le remporter? Qui est-ce qui va le bouffer? Il se foutait de notre gueule parce que dans sa tête, effectivement, si tu étais enfermé avec Philippe Sella et qu'il y avait un bout de sec au milieu de la pièce, c'était Philippe qui le croquait avant toi. Donc, voilà, c'est un petit résumé de la situation parce que, en fait, Philippe Sella était l'archétype du joueur dont rêvait Jacques Fourou et dont rêvait sûrement pas mal d'entraîneurs, j'imagine, puisqu'il avait effectivement toutes les qualités. Mais le coup du beefsteak, ça fait marrer Arnaud, apparemment.
Non, mais je veux savoir si tu te serais défendu quand même pour arracher au moins une bouchée.
Bien sûr, je me serais défendu. Mais effectivement, il y avait une telle férocité dans ses yeux avant les matchs. Que, voilà, mais bon, c'est pour résumer le truc, quoi. Que, tu sais, comme disait Michel Audiard, quand les hommes de 60 kilos parlent aux mecs de 120 kilos, les mecs de 60 kilos les écoutent. Mais c'était un petit résumé parce qu'au-delà de la connerie qu'il avait en défense, c'était une bête, quoi. Il avait tout ce que rêvent les entraîneurs, à savoir la vitesse, le crochet, le changement de pied. Parce que qu'est-ce qu'un bon joueur actuellement, d'autant plus sur les pelouses synthétiques actuellement, et j'en discutais avec Laurent Travers, c'est un joueur qui va vite, qui a des appuis et qui a des mains. C'est ça le joueur des années 2500, 2100, toi, c'est ça. Et lui, il avait déjà un peu tout, plus du physique. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il avait les kilos, mais les bons kilos qu'il faut, parce que tu sais qu'il y a des mecs de 98 kilos qui c'est de la barbaque molle. Lui, il avait de la barbaque dure à 90 kilos. Donc, ça fait plus mal qu'un mec de 100 kilos qui est mou comme une merde, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et il avait le punch et ça faisait mal. Au centimètre carré, sa chair, elle faisait mal, voilà.
Et tu parlais des crochets, et un des essais que je préfère, moi, de Cella en équipe de France, il y en a eu beaucoup,
c'est l'interception? Non.
Il y a l'interception, mais c'est le même match. C'est contre. On parlait de l'essai
beaucoup
tout à l'heure. Non, non, la demi-finale contre l'Australie, l'essai qu'il met en début de deuxième mi-temps, pour moi, c'est vraiment. Voilà, c'est ça, c'est là pour moi. C'est du Cella tout proche. C'est vrai qu'il est un peu éclipsé, cet essai, par celui que. De la dernière
mais tu sais que l'essai de Blanco, s'il y avait eu la vidéo, il n'y aurait pas essayé.
Ouais, je sais, ouais. Ouais,
c'est fantastique quand même.
Ça rend la légende encore plus.
Non, mais Lolo Rodriguez.
Il y a en avant de Rodriguez et je suis pas sûr qu'il aplatisse avant d'être dehors, avant d'avoir le pied dehors. Mais on ne refait pas l'histoire. Mais c'est quand même drôle. C'est vrai. Par contre, l'essai de Philippe Cella en début de match, en milieu de match, il est absolument monstrueux et tu sens toute sa rage avec deux mecs sur la gueule. Voilà. Maintenant, alors quel est le meilleur, les gars? Vous avez choisi? Vous avez débattu?
Moi, j'aimerais bien avoir le sentiment de Raph. On n'a pas le sentiment de Raph.
Mais je vous écoute parce que c'est moi. J'ai dit Jean-Luc Sadourny parce que j'ai pas de. En fait, j'ai pas de souvenir. Pourquoi? Parce que originaire de Picardie, déjà, on n'avait pas Canal avant 2005. C'est arrivé en 2005, Canal Plus. Et puis, moi, je regardais le tournoi des Cinq Nations avec mon père. C'était fort, mais je l'ai regardé à partir de 12-13 ans, donc entre 92 et 93. J'ai peu de souvenirs en fait de Serge Blanco. J'ai peu de souvenirs aussi de joueurs en particulier. Je me souviens de l'équipe, je me souviens de Castel en fin des années 90. Il y a des joueurs comme ça en fait qui émergent dans mes souvenirs. Moi, j'ai commencé à 7 ans le rugby, mais à 12-13 ans, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Je me filais des bières à la Red Car et des grandes clopes. Je rentrais le samedi après-midi à 15h30. C'était le côté un peu religieux. J'étais à côté de mon père. On regardait le tournoi des Cinq Nations. J'avais la main sur le cœur et je chantais chanter la Marseillaise avec l'équipe. Et puis, il y a ce mec, Jean-Luc Sadourny, en fait, que je voyais sur le terrain faire les crochets. Donc, ce n'était pas Blanco, ce n'était pas un autre de la génération, je dirais, d'avant. C'était Jean-Luc Sadourny, une espèce de folon sur le terrain qui, en plus, en dehors du terrain, se filait des clopes. Donc, moi, 5 ans plus tard, je me retrouve dans les vestiaires avec Christophe Juillet, Christophe Dominici, et me fumer des clopes comme mon idole, Jean-Luc Sadourny. Et pour l'anecdote, on est en 94, il y avait un tournoi qui était monstrueux à Beauvais qui s'appelait le tournoi communaux et je me suis dit, je vais faire une JLS. Donc, je vais tenter un crochet. Alors, ce n'était pas du tout ma spécialité, je joue à l'arrière, pas du tout ma spécialité. Résultat, le genou qui part à gauche, la rotule qui part à droite, désarmement des toboggans. J'en ai pris pour 5 mois. J'ai décidé de ne plus jamais faire une JLS de ma vie et c'est resté.
Raphaël, fallait que tu rentres dans la gueule, toi.
Non, mais oui,
faut que tu rentres dans la gueule des mecs, faut pas que tu tapes et faut que tu fasses une passe. Toi, avec tes 100 bornes, le coup du beefsteak, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse aussi, Arnaud, c'est toi.
J'entends, mais donc c'est. Moi, j'ai
non, mais pour revenir à Sadourny.
J'ai toujours badé des mecs donc, qui étaient capables de faire ce que j'étais incapable de faire. Et Jean-Luc, on faisait partie, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et l'un de mes plus grands regrets, parce que j'ai loupé quelques finales au stade, c'est cette finale en 2000 où on joue contre Colomiers. Et j'ai ce mec que j'ai badé avec la cabane est tombée sur le chien, mon cul, machin. Et j'écoutais ses commentaires, je voyais Jean-Luc Sadourny et je devais jouer contre lui au Stade de France cette finale le 15 juillet 2000 en autogestion avec le stade. Et je ne la joue pas. Et c'était l'un de mes pires souvenirs parce que j'ai badé ce mec qui, en équipe de France, était énorme. Donc, je ne peux pas trancher avec Cella, avec Blanco, parce qu'à la limite, ce n'est pas ma génération. Et je me suis penché sur le rugby au moment
où donc on part.
Sadourny.
Non mais Sadourny, Jean-Luc Sadourny, t'es un super joueur avec, tu l'as dit, des qualités. Moi, je me souviens, sa dextérité, notamment sous les ballons hauts, il avait une faculté à aller récupérer les chandelles anglaises, entre autres. Mais je pense que il n'a pas eu la carrière d'un Serge Blanco, qu'il n'a pas eu l'aura d'un Jean-Pierre Rive.
Il avait le timing pour attaquer la ligne et pour entrer dans la ligne quand il fallait. Non, mais en plus, Jean-Luc est un pote parce qu'en Coupe du Monde 91, j'étais avec lui en piole lorsque... Il a fait partie de l'équipe des costards. Et oui, il faut être costard avant de d'enfiler le maillot. Et pendant 3 semaines, effectivement, il m'a regardé kiffer cette Coupe du Monde, puisque c'était ma meilleure. Que j'étais avec lui en pull, et effectivement, il fumait à peu près 300 clopes par jour, et qu'il allait sur le balcon, que les cendriers étaient pleins, et que j'en pouvais plus. mais effectivement, je comprends que par rapport à l'enfance, et que je sais que Raphaël est un grand sentimental, puisque en fait, on parle des grands joueurs qui nous ont marqués par rapport à nous. En fait, on ne parle pas des années 50, des années 60. On parle des grands joueurs depuis 30 ans, en fait. On est d'accord.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, moi, que je n'ai pas choisi Jean-Pierre Rive au final, parce que j'ai moins de souvenirs. J'étais vraiment petit et j'ai quelques bribes d'images de Jean-Pierre Yves qui m'ont marqué, mais j'ai beaucoup moins connu le joueur que je
n'ai. Moi, je veux te dire, Jean-Pierre Yves, il faisait 85 kilos. Moi, je l'ai vu en Coupe des Provinces avec moi, avec l'Île-de-France, retourner des mecs de 100 kilos devant moi à Brive en demi-finale. Je l'ai vu, alors qu'on s'entraînait depuis 2 jours pour cette demi-finale, arriver en Porsche avec Robert Papon en borne la veille du match. Ça m'avait marqué. Il avait déjà 40 sélections. Et j'ai vu faire les plus grands discours, parce que moi, j'ai eu comme capitaine pas mal de capitaines. J'ai eu Rive, Berbizier, Dubroca, Blanco, j'en ai eu un paquet, Berbiz. Et franchement, au niveau du discours, c'était le meilleur. Il était très, 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 très bon. Tu te rappelles un jour ce qu'il avait dit, Arnaud ? Les trois choses inutiles dans la vie.
Non, je ne me souviens pas.
Les couilles du curé, les seins d'une nonne, et le sifflet de l'arbitre. Il avait terminé son discours comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de nana au banquet. Au banquet, c'est les grands hôtels à 7h30 du soir. Que des mecs entre nous, ça fumait, ça buvait, pour prolonger ce que disait Raphaël. Mais Jean-Pierre Yves était, par rapport à son gabarit, c'est pour ça que je le compare un peu à Hooper. Hooper qui est un monstre. Un monstre. Hein, enfin, alors, évidemment, ce n'est pas un monstre pour toi.
Ici, Hooper, Pocock, c'est des joueurs qui ont des profils incroyables.
Est-ce que le plus grand est celui qui a le plus brillé aux yeux de tout le monde, ou c'est celui qui a le plus fait briller les autres? Parce qu'un mec comme Hooper ou comme Jean-Pierre Yves qui aurait pu gratter actuellement les ballons comme fait Armitage, mais en plus Jean-Pierre Yves, mais à l'époque, il y avait également un débat entre Skrela et Yves, parce qu'on disait Skrela, il est meilleur que Rive, mais on ne le voit pas parce qu'il est blond. Il n'est pas blond. Toi, c'est compliqué ce genre de truc, quoi. Tu es d'accord avec moi?
Moi, je suis d'accord avec toi. Pour te rejoindre, moi, j'ai longuement hésité avec Thierry Dussautoir dans mon choix. Pourquoi? Parce que Thierry Dussautoir est un joueur mais extraordinaire. Faut se souvenir, voilà, évidemment, ce quart de finale contre les Blacks en Coupe du Monde 2007 qui le révèle. Hein. Je rappelle quand même qu'en 2007, à l'époque, Bernard Laporte ne le sélectionne pas et que c'est parce qu'il y a un blessé qui rappelle Thierry Dussautoir et que finalement, il fait une Coupe du Monde titanesque. Et j'ai encore ce visage fermé au soir de la finale de Coupe du Monde 2011. J'avais eu la chance d'être à Auckland ce jour-là pour assister à la finale entre l'équipe de France et les Blacks. Je me souviens de cette détermination sur Thierry Dussautoir et ce match. Je rappelle que c'est lui, ce jour-là, contre les Blacks, qui marque le seul essai de l'équipe de France. Défaite d'un petit point, hein, défaite du 8-7 de mémoire. Et Thierry Dussautoir, évidemment que Thierry Dussautoir n'a pas marqué 50 essais. Évidemment qu'il n'a pas eu le retentissement médiatique qu'a eu un Serge Blanco, qu'a eu un Jean-Pierre Rive. Mais Thierry Dussautoir, comme tu le soulignais si bien, c'était un soldat au service du collectif. Et quelle aura, quel charisme en tant que capitaine. Un garçon d'une intelligence remarquable. On le voit d'ailleurs, alors on n'est pas là pour parler de ça, mais on le voit aujourd'hui dans sa reconversion, dans ses prises de parole, dans ses prises de position. Voilà, cette intelligence, il la mettait au service du collectif sur le terrain. Et je pense que, d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du monde, je ne me souviens plus en quelle année. Mais
2011.
Voilà, c'est 2011. 2011, ouais. Oui, voilà, lors de la Coupe du Monde, ce qui veut tout dire, hein, d'ailleurs, parce qu'en général, le meilleur joueur du monde est souvent parmi l'équipe qui est sacrée championne du monde. Voilà. Peut-être qu'on aurait mérité ce titre, mais ça, c'est un autre débat.
Non, mais Dussautoir, je suis d'accord, c'est probablement en tout cas, le plus grand joueur français, le plus marquant du 21e siècle. Ça, je pense qu'il n'y a pas de...
Mais il faut choisir. Mais il faut choisir, Laurent.
Mais il faut choisir. Non, mais c'est très difficile. Moi, je voulais parler un peu de Sadourny. Il y a un mot, pour moi, qu'il qualifiait, c'était l'élégance. Je trouvais qu'il avait une élégance incroyable, Sadourny, quand il relançait. Là, c'était, il dégageait quelque chose, quand même. C'était...
Une nonchalance, une fausse lenteur, en fait, où il pouvait t'envoyer dans les tribunes avec un crochet, et puis c'était la classe sur ses feintes. C'était, non, je sais pas, moi c'est un mec qui est évident par rapport au débat qu'on a aujourd'hui. C'est oui, il y a toujours on a des points de vue complètement différents par rapport à la génération. Moi, je sais que j'ai pris ce débat là que vous m'avez proposé, qu'Adrien m'a proposé, par rapport à mes souvenirs d'enfance et d'adolescence. En fait, ces moments où tu as ces espèces de légendes que tu regardes à la télé, qu'un jour tu rencontres. Je me souviens d'Olivier Roumat, on parle peu des avants aussi. Olivier Roumat, qui, moi, en 91, me remet une coupe au stade de la Méditerranée. J'ai 11 ans et qui, 10 ans plus tard, je joue un match Babas contre les Fidji à Mayol et c'est lui qui me remet le maillot. Et en fait, c'est ces figures-là, en fait, que tu... c'est ces figures-là en fait que tu as vues à la télé qui t'ont marqué un moment sur une action.
Oui, mais Raphaël, il faut que tu dépasses la Madeleine de Proust. Il faut que tu dépasses l'enfance là. On est obligé d'essayer de voir par rapport à, pas par rapport à nous, mais par rapport aux autres, par rapport aux gens en général, au peuple. On ne sera pas objectif, on ne sera jamais objectif.
Bien sûr.
Je veux dire, toi, pour revenir sur un mec comme Jean-Luc Sadourny, que j'ai côtoyé, qui est quand même une patte, qui est un mec très, très gentil et tout, je m'étonne même qu'il ait disparu de la circulation au niveau consultant, médiatique et tout, parce qu'il était tellement discret. Toi, il était trop discret. Enfin, il était très élégant sur le terrain, mais c'est vrai qu'on en parle. Et ça me fait chier parce que il n'est pas invité à Canal, ni Eurosport, Arnaud, c'est vrai. Et il y a quand même un
déclin. C'est pas ça, Jean-Luc. Hein.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je l'adore, Jean-Luc, mais je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a un décalage énorme, et c'est important de le souligner, entre sa carrière internationale et l'après, ou à côté, ou. Tu vois, c'est important de. C'est important, voilà, un mec comme Blanco.
C'est comme Titou La Maison. C'est comme Titou La Maison.
Oui, La Maison, mais un mec comme Blanco, Serge a été président de la Ligue. C'est important.
Oui, mais ça, c'est des prises de position et c'est des caractères.
Mais moi, je te dis, pour revenir à ce que disait Laurent, moi, j'adore Serge, mais le plus grand qui fait l'unanimité, je pense que s'il y avait un référendum en France, s'il fallait choisir un mec, je pense que c'est celle-là. Mais voilà, après, chacun a son idée, tu sais. Il y a 60 millions d'équipes de France, on le sait très bien, comme il y a 60 millions d'équipes de foot. Mais j'apprécie ton sentimentalisme et ton retour à tes souvenirs d'enfance, Raphaël, parce que je sais que tu es très sensible.
Ben oui, parce que ça m'a construit aussi, ça m'a construit dans une vision où moi j'aimais jouer à l'arrière, à la porte en 98, il me dit avec 100 kilos tu seras le meilleur, je prends 8 kilos de muscle en un an, sans doper, je peux la parenthèse fermée, et derrière il me dit je vais te faire passer à l'aile, sans me former, alors que j'adorais ce poste à l'arrière, je t'ai vu jouer Jean-Bas, j'ai vu jouer les Sadourny, j'ai quand même eu des… et puis je me régalais pendant 10 ans, et du jour au lendemain on me met à l'aile, donc quand on me demande… Ben, je me réfère en fait à ceux qui m'ont fait aimer le rugby, dont toi, dont Jean-Luc Sadourny. Et ce ne sera pas diront oui, Jean-Luc Sadourny. Ben non, pour nous, ce n'est pas celui-là. On irait plus voir, comme on l'a dit, sur un Thierry Dussautoir, sur un Jean-Pierre Rive, sur un Senna. Mais ces moments en fait, qui te marquent, je ne sais même pas si ce n'est pas du sentimentalisme, mais c'est ces moments en fait, où, comme ces grandes valeurs, on dit les valeurs, elles se perdent. Non, elles ne se perdent pas. Les valeurs, elles ne s'expliquent pas, elles se vivent. Ces souvenirs-là, en fait, c'est ce qu'ils te font en tant que joueur. Je te pose la question à toi, Jean-Bas. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le poste derrière? Est-ce que c'est ton attitude sur le terrain ou est-ce que c'est des gens qui t'ont fait aimer ce poste?
Non, c'est… Qu'est-ce qui m'a fait aimer le rugby? C'est des souvenirs d'enfance. C'est Jean-Pierre Bastia qui intercepte en 73, qui marque contre Béziers. C'est bien sûr du côté de ma famille, mais c'est Jean-Michel Aguirre le meilleur arrière du monde à l'époque. C'est toute la saga des années 70 du Pays de Galles avec des joueurs exceptionnels. Alors évidemment, ça ne dit rien à personne. Les DJ Williams, les JPR Williams, les Gerald Davis, les Phil Bennett, c'est le dernier quart d'heure gallois. Tu te rappelles, Arnaud, le dernier quart d'heure gallois, les dernières 20 minutes où ça… Fenwick…
Il y avait le feu.
Fenwick, le rouquin. Donc voilà, c'est tout. Mais ça ne m'empêche pas de me dire, de ne pas céder à ce sentimentalisme, de dire voilà, j'ai… Non, je pense que le plus grand joueur de tous les temps de l'équipe de France, chacun l'a dans son cœur, mais c'est tellement teinté de subjectivité sentimentale que c'est difficile d'en parler. C'est ça que je veux te dire. Voilà.
Et puis c'est difficile pour moi de s'affranchir de ta jeunesse.
Non mais Laurent,
de ce que tu as ressenti.
T'imagines qu'on ne parle pas, à aucun moment on parle de Boniface, à aucun moment on parle de Michel Crost, à aucun moment, si j'en ai parlé un peu, de Jean Gachet.
Le Mongol.
Non mais voilà, de Lucien Pratt, enfin des monstres qu'il y a eu, mais effectivement c'est difficile. Alors c'est une discussion de bistrot entre guillemets, même si on n'est pas au bistrot, enfin je bois à votre santé quand même, mais je dis pas qu'on parle pour rien dire, mais ça fera pas changer ni influencer l'opinion des gens. Mais
et peut-être que dans 30 ans plus personne, enfin très peu de gens citeront Blanco. C'est voilà, là
et dans 30 ans ça sera peut-être Dupont, ça sera Dupont peut-être Ntamack, mais Mais c'est tellement agréable d'être avec vous en ce moment que je kiffe, quoi, toi.
JB, parle un peu de Jean Gachassin, parce que tu l'as cité au début.
Oui, parce que Jean Gachassin, c'est Peter Pan. C'est effectivement, il a joué à tous les postes de l'équipe de France, du 9 au 15. C'est un mec qui est délicieux en dehors du terrain. C'est un mec qui a plus de 70 barreaux, qui est gay, qui est drôle, qui a été président de la Fédération française de tennis, qui a une espèce d'entrain, d'enthousiasme exceptionnel et qui, par rapport à son gabarit, a fait des choses exceptionnelles. Et on peut se poser la question actuellement, c'est un mec qui faisait 10-6 au 100 mètres, et, bah, c'est vrai, il est tout petit, il fait un 60, je crois, 60. À quel poste il jouerait actuellement? Il jouerait 9 ou 10, ou plutôt 9.
Il jouerait plus.
C'est non, mais je suis pas d'accord avec toi, Arnaud. Je suis pas d'accord avec toi. Mais tu ne te rends pas compte les qualités physiques. Est-ce que tu as vu Serein, il est pas. Voilà, il est comme ça. Dupont, il est comme ça, il est petit. Mais Jean Gachassin, avec les compliments alimentaires que lui donnerait Raphaël, les Nantois, il aurait pris. Mais au niveau des jambes, vous ne vous rendez pas compte que Jean Gachassin, il est monté à 4-6 au tennis. C'était un monstre. Alors, il ne jouerait pas 3/4 centre, je suis d'accord. Avec les Fidjiens, les Samoans, la main-d'œuvre étrangère actuellement, c'est vrai que le poste de 3/4 centre, en fait, il n'y a plus deux postes pour les Français, il n'y a plus qu'un poste. Parce que l'autre poste, il est occupé par des étrangers. Tu regardes les 3/4 centre en France, c'est catastrophique. Mais pour te dire que Jean Gachassin, alors c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouaient il y a 20 ans, joueraient actuellement? Est-ce que Jean-Pierre Yves jouerait? Alors, je te pose la question. 83 kilos. Est-ce qu'il jouerait, Raphaël?
Je sais pas. Moi, j'ai vu des mecs commencer à 90 kilos et tout au long de leur carrière, pour 1 kilo par an, je pense à
Pierre. Oui, mais non, mais Jean-Pierre Yves. Jean-Pierre Yves, il a commencé à 80. Il a commencé à 80. Il a terminé à 85.
Ouais, mais il aurait. Enfin, c'est encore plus difficile. Là, on fait de l'Uchronie.
Oui,
c'est,
oui.
Aujourd'hui, il se préparait différemment. Et...
Les Gachassin joueraient, voilà, je te le dis. Ils ne joueraient pas 3/4 centre, mais des cannes de folie, des crochets de folie. Ils joueraient numéro 9.
Une intelligence de jeu incroyable. C'est pour ça qu'il a été capable de s'adapter.
Michalak, voilà. Après, on n'a pas les. Le problème, c'est qu'on n'a pas les images, toi, Arnaud. On n'a pas les images. Donc, on vit de. Voilà, mais. Voilà, pour résumer, pour moi, tu ne peux pas dire quel est le plus grand joueur. Tu peux dire quelle a été la plus grande idole du rugby. Mais il ne faut pas confondre le plus grand joueur et la plus grande idole. Parce que, je veux dire, il y a peu eu de gardiens de but qui ont eu le ballon d'or. Tu vois, c'est surtout des attaquants. Donc, il faut, je pense, pour être un idole ou pour être… comme vous le dites, un des plus grands joueurs, briller entre guillemets, sans que ça soit mal interprété, Arnaud. Mais se faire connaître et effectivement faire bouger la rétine, c'est ça que je veux dire. Donc, le plus grand joueur, c'est difficile. La plus grande idole, oui, effectivement, au niveau de l'idole, il y a des gens qu'on fait jouer au rugby, qu'on multiplie les licences à l'école de rugby. Effectivement, Blanco a fait rêver les jeunes, Rive a dû faire rêver les jeunes, et Antoine Dupont, qui a le nom le plus commun de tous les Français, et peut-être unique, paradoxalement, et lui fera rêver les jeunes.
Ouais. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast.
Alors à bientôt, hein, si vous m'invitez encore, bande de salopards.
On invitera régulièrement JB avec plaisir. N'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast et à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, merci et à très bientôt.
Merci.
Allez, ciao.
Salut,
merci,
ciao.
Salut Laurent.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.